Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce premier jour de grosse chaleur, Franck Ferrand se croit déjà en vacances. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Vous avez raison, nous mettons le cap sur la Bretagne aujourd'hui, en compagnie de Joël Cornette, qui vient de republier son histoire de la Bretagne et des Bretons, mais dans une version illustrée, extrêmement riche et qui nous fait vibrer. Vous savez, Joël Cornette est venu avec un vieil album de Bécassine, la plus célèbre des Bretonnes, même si ça n'est pas du goût de tout le monde. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Parler tout à l'heure. Alors, peut-être pour ne pas trop dépayser Joël Cornette, qui s'y connaît lorsqu'il parle néanmoins de Bretagne, croyez-moi. Nous allons parler notamment de la Bretagne au XVIIe siècle, puisque je vous propose de commencer par évoquer les révoltes et les rébellions qui ont agité cette belle province à l'époque.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Guy, qui souhaite connaître l'origine des coiffes bretonnes.
Eh bien voilà, une question appropriée, ou alors je ne m'y connais pas. Pour le moment, nous partons donc retrouver non pas les coiffes blanches, mais les bonnets rouges.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je parlais des bonnets rouges à l'instant, évidemment c'est l'image qui saute tout de suite à l'esprit lorsqu'on évoque les révoltes bretonnes et notamment des révoltes très récentes et dont on peut dire du reste qu'elles ne sont peut-être pas tout à fait à mettre au passé. Ces bonnets rouges avec d'autres, on parle des torébènes, les casse-têtes en breton, hein, on parle également de la révolte du papier timbré, vous allez voir pourquoi dans un instant, tout ça éclate au beau milieu du règne de Louis XIV dans l'époque qui est l'époque de gloire du règne de Louis XIV. On dira d'ailleurs tout à l'heure avec Joël Cornette un mot de l'ouvrage qu'il est en train de préparer sur la mort de Louis XIV, puisque nous célébrerons très bientôt, maintenant le 1er septembre prochain, le tricentenaire de la mort du grand roi. Nous essaierons d'ailleurs de marquer l'occasion d'une pierre blanche et je ne vous dis pas tout, mais nous sommes en train de préparer une émission tout à fait spéciale à cette occasion-là. Alors, je ferme la parenthèse et je reviens en 1675. 1675, c'est 40 ans avant la mort de Louis XIV, on est donc à l'apogée du règne, on est à la grande époque où Colbert dirige, si je puis dire, les affaires d'une poigne tout à fait extraordinaire, et il a imposé une taxe sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Alors, évidemment, là encore, on ne peut pas échapper à un certain nombre de lieux communs, de souvenirs qui ont marqué la mémoire collective et notamment la mémoire nationale en l'occurrence. Rappelez-vous la célèbre phrase de Madame de Sévigné écrivant à sa fille, hein, Madame de Grignan, qui elle est très loin là-bas en Provence, elle lui dit « Les arbres de ce pays, et le pays en question c'est la Bretagne, ploient sous le poids des pendus. » C'est qu'en vérité, plutôt presque, que d'évoquer des révoltes et des rébellions, je devrais parler de la répression qui s'est abattue sur la Bretagne dès que les pauvres Bretons ont essayé de bouger. Pour faire face à cette révolte, sur laquelle nous allons revenir un peu en détail, le duc de Chaulnes va demander un renfort, le gouverneur va demander un renfort de 6000 hommes qui vont intervenir alors là véritablement comme une armée de conquête. C'est d'une violence absolument incroyable. Ils entrent à Rennes, balles en bouche, comme on dit, prêts à tirer. Et c'est vrai que cette répression a laissé aux Bretons, aujourd'hui encore, un souvenir amer et le goût du sang, véritablement. Il faut imaginer la fureur des soldats venant de toutes sortes de provinces et qui vont s'acharner sur les paysans bretons. On en enverra beaucoup aux galères, bien entendu, quand ils ne sont pas morts. On en pendra un certain nombre de meneurs. Là aussi, nous y viendrons. On va rouer beaucoup de gens. On viole les femmes, etc. Enfin, on connaît toujours cette litanie, vous savez, des horreurs lorsque la répression s'étend sur une région. C'est Duchemin, qui est un marchand rennais, qui note dans son journal que les soldats ont tellement vexé les habitants qu'ils ont jeté de leurs hôtes et hôtesses par les fenêtres après les avoir battus et excédés, écrit-il, ont violé femmes, lié enfants tout nus sur des broches pour les vouloir faire rôtir, rompu et brûlé leurs meubles, démoli les fenêtres et vitres des maisons, exigé grandes sommes de leurs hôtes et commis tant de crimes qu'ils égalent Rennes à la destruction de Jérusalem, écrit-il. C'est vrai qu'il y avait sans doute une volonté de marquer durablement les esprits et d'éviter que ne se reproduisent les troubles et les désordres qui avaient jeté la Bretagne dans le chaos. Je vous donne un exemple de condamnation. On a assez peu de noms, du reste. C'est très difficile de trouver des noms, et pour cause, puisque c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, vous le savez, et qu'en l'occurrence, ils n'ont pas tenu à ce qu'on retienne le nom de ceux qui s'étaient illustrés par leur courage, diront certains, leur hardiesse, estimeront beaucoup d'autres. Un nom, celui d'Alain Lemoinc, c'est un laboureur. Il y a également Laurent Lequeo, qui lui était meunier à Carhaix, justement, puisqu'on parlait des vieilles charrues. Et voilà à quoi ils ont été condamnés. Être pris par l'exécuteur de haute justice, la corde au cou, tête et pieds nus, en chemise, tenant une torche allumée en main du poids de 6 livres. Bon, ça c'est la célèbre amende honorable, on faisait ça dans tout le royaume. Être conduit au martyr de cette ville pour, sur un échafaud, y être mis sur une croix de Saint-André étendue, son corps et ses membres rompus et brisés à coups de barre de fer, préalablement étranglé, son corps, quand il dit préalablement étranglé, à l'exposition, c'est-à-dire parce que je saute 3 ou 4 lignes là dans la sentence, préalablement étranglé, son corps porté dans la paroisse de Briec et mis sur une roue élevée de 8 pieds et y demeurait jusqu'à parfaite consommation. Vous voyez que le but est de marquer les esprits, même si le supplice de la roue est relativement répandu à l'époque. Il s'agit de frapper les gens et de faire en sorte qu'ils n'aient pas l'envie de recommencer. Alors, je vous le disais, on ignore à peu près tout des meneurs. Un nom ressort néanmoins, celui de Sébastien Lebas, qui est un notaire de Clédan-Poer. Il est fils de paysan, il travaille justement dans la région de Carhaix. C'est intéressant d'ailleurs que cette région, je pense que ça n'est pas un hasard. Pour tout vous dire, j'ai pas réussi à trouver exactement la confirmation de ça. Nous n'avons pas eu le temps d'appeler Monsieur Uderzo ce matin, mais il semblerait, en tout cas ce qui est étonnant, c'est que le village des Irréductibles Gaulois, Goscinny et Uderzo l'ont placé très exactement à cet endroit. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est... Mais c'est comme ça. Il y a une dimension très symbolique, bien entendu, sur cette terre. Alors, certains disent que ce fils de paysan a mené la révolte, qu'il aurait réussi à rassembler 30 000 hommes. Avec sa troupe, il y a eu, on peut dire, des exactions autour de Carhaix de Pontivy. Ils ont incendié des bureaux, des halagrins, des demeures, des châteaux, etc. Des destructions qui ont été accompagnés d'assassinats, il faut le dire. On était dans des rébellions très dures, très sauvages. Et début septembre, alors que les troupes du roi sont déjà en route, Lebas va être tué par surprise d'un coup d'épée par un gentilhomme, Claude de Montgaillard, au château de Timeur. Il était en train de rallier à sa cause un certain nombre de gens de la maison, justement. Et le gentilhomme a mis un terme à l'insurrection, disons, au soulèvement. La révolte est réduite après sa mort. Il est probable que s'il avait survécu, c'est toujours difficile de le dire, mais il est probable que les choses auraient duré davantage. Notons qu'il n'échappe pas pour autant à la justice. Vous savez comment ça se passait sous l'Ancien Régime. Il a été tué comme ça, bon, d'un coup d'arme blanche, enterré. On l'a déterré 2 jours plus tard et l'on a attaché son cadavre, la face contre terre, sur une clé pour être traîné. Ensuite, il a été rompu et exposé sur la roue comme s'il était encore vivant.
Del capriole, pied droit à l'argile, la cavotte soise, pied droit à l'argile, mesdames.
Tu te trouveras, tel capriole, pied droit à l'argile, la cavotte soise, pied droit à l'argile, mesdames.
Sur un des épées d'Hervaux, je me trahis.
Ça va être sous mes testes, nous, là, et n'est dans nos plans.
Galvette besoin avec capriole, pied droit à l'argile, sous les toits, rosser, pied droit à l'argile, mesdames.
Galvette besoin avec capriole, pied droit à l'argile, sous les toits, rosser, pied droit à l'argile, mesdames.
Sur Europe 1, un extrait de L'été des bonnets rouges de Trianne. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la révolte bretonne au XVIIe siècle.
Alors, je vous parlais de Sébastien Le Bal, puis c'est un personnage très important parce qu'en fait, il est très probablement, enfin certains le pensent, le rédacteur de ce qu'on a appelé le Code paysan. Hein. C'est un texte revendicatif qui est un texte en français, c'est très important, il n'est pas en langue bretonne. La langue parlée et la langue générale, bien sûr, dans toute la Bretagne à l'époque, c'est le breton. Eh bien, ce code paysan exprime un certain nombre d'aspirations. On peut presque dire qu'il annonce d'une certaine manière les cahiers de doléances de 1789. Vous savez que des cahiers de doléances, il y en a eu un certain nombre dans l'histoire de France au moment de la réunion de plusieurs états généraux. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout ça. Toujours est-il que ce règlement, c'est ainsi qu'il s'intitule, aurait été fait par, je cite, les nobles habitants de 14 paroisses unies. Aïe, 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 paroisses unies. Ça ne va pas plaire au pouvoir central. Du pays d'Armorique, situé depuis Douarnenez jusqu'à Concarneau. Ce sont, on pourrait presque parler d'une profession de foi, hein, d'une certaine manière. Beaucoup d'articles s'élèvent contre la rudesse de la justice seigneuriale, contre les seigneurs. Donc contre ce qui assoit l'autorité dans la province, bien entendu. Les trois premiers articles témoignent d'un évident souci d'apaisement, mais dans les autres, on voit émerger un certain nombre de revendications qui presque toutes vont toujours tourner autour de la fiscalité d'une manière ou d'une autre. Ça n'est pas un hasard. Parce que, et alors là vous allez me dire c'est une grande habitude, c'est un grand classique dans l'histoire populaire et dans l'histoire des révoltes, très souvent, les révolutions, les révoltes, les rebellions, enfin appelez ça comme vous voulez, les rébellions naissent de problèmes fiscaux. Et c'est exactement ce qui se passe dans la Bretagne de l'époque, même si bien entendu, comme très souvent, les questions fiscales ne servent que de déclencheur, mettent le feu aux poudres sur une situation qui elle est souvent beaucoup plus profonde. Il faut vous dire qu'au XIVe, au XVe, au XVIe, la Bretagne a connu une époque de grande prospérité, même s'il faudrait nuancer en fonction des régions, mais il y a une grande prospérité, il y a une sorte d'autonomie économique et financière de ce qui était, ne l'oublions pas, souverain jusqu'en 1532, hein, jusqu'à ce que la reine Claude nous ramène, si je puis dire, la Bretagne, la fille d'Anne de Bretagne et de Louis XII, l'épouse de François Ier. Donc, il y a eu, évidemment, quand je dis la reine Claude, c'est son fils, hein, en l'occurrence, en 1932, qui nous ramène la Bretagne. Enfin, peu importe, François. Il y a eu une période de grande prospérité, et ça, évidemment, dans un royaume relativement en difficulté, et dont certaines provinces sont carrément exsangues, disons-le, à partir des années, avec la fin de la guerre de 30 ans, hein, dans les années 1630, 1640, 1650, la France connaît des difficultés très graves. Rappelez-vous ce qui va se passer à l'époque de la Fronde, et bien entendu, les tenants du pouvoir central, et bien entendu, Colbert, le tout premier, vont chercher l'argent là où il se trouve d'une certaine manière. Et donc il y a eu des prélèvements qui au départ étaient relativement légers. Il n'y avait pas de taille en Bretagne. Le fouage, enfin, alors faudrait parler de tous ces différents impôts et ces taxes de l'ancien régime, mais d'une façon générale, ces taxes étaient moins forte, moins pesante que dans d'autres provinces, du fait tout simplement du rattachement récent de la Bretagne à la France. Or, quand je dis rattachement, d'ailleurs, attention, je sais que je vais me faire attraper parce que ce n'est pas le mot qu'il faut employer. Mais enfin, on y viendra tout à l'heure à ça avec Joël Cornette. Donc, il y a eu le contrat, ce qu'on appelle le contrat de Vannes, hein, cette fusion de la Bretagne dans le royaume. Donc là, on est bien en 1532, qui dit qu'aucun impôt ne sera prélevé en Bretagne sans l'accord des États provinciaux. Ça n'était pas seulement dans tous les pays d'État, on avait la même chose, mais en Bretagne, c'était particulièrement fort. Et les rois successifs ont à peu près respecté ce contrat. Les impôts ont été plus modérés en Bretagne qu'ailleurs. Jusqu'à l'époque de Louis XIV, ou disons les choses, jusqu'à l'époque de Colbert. Il faut vous dire qu'on est en guerre contre la Hollande. À l'époque, on est au printemps 1672. Cette guerre, cette campagne de Hollande devait être une simple marche triomphale pour Louis XIV. Elle se révèle nettement plus compliquée que prévu. Et infiniment plus coûteuse, car c'est une guerre de sièges dans les formes qui coûtent, donc c'est ce qui coûte le plus cher, hein, les sièges bien entendu, guerre qui s'éternise. Les Hollandais, vous savez, ont noyé leur pays, hein, ils ont ouvert les vannes, ils ont inondé les polders, etc. Donc une guerre très éprouvante, très chère, qui va supposer la perception de nouveaux impôts, avec un effort fiscal sans précédent. Quand je dis sans précédent, ça c'est pas vrai, mais en tout cas un effort fiscal tout à fait singulier dans le royaume. Et trois nouvelles taxes coup sur coup en Bretagne. En avril 1674, la taxe sur le papier timbré, qui va taxer tous les actes juridiques, avec alors tout ce qui concerne les testaments, les contrats de mariage, les signatures de contrats, etc. Faut pas oublier que la Bretagne est une vieille terre très juridique, qu'on a l'habitude d'y multiplier les actes. Et donc, c'est un impôt particulièrement impopulaire. Le deuxième impôt, c'est le tabac, qui est mis en régie, c'est-à-dire que l'État fait main basse sur ce qui devient un monopole. Or, il ne faut pas oublier qu'en Bretagne, on adore non seulement chiquer comme partout ailleurs et priser, mais aussi fumer la pipe. Hein, c'est une des grandes spécificités régionales. Donc ça aussi, c'est mal perçu. Puis, une taxe sur l'étain. On taxe toute pièce d'étain d'un sol. Bon, ça, c'est peut-être pas une taxe terrible, mais le problème, c'est que c'est une taxe qui touche, vous savez, c'est toujours le problème de ces impôts sur la consommation qui se voit beaucoup, qui agace, qui fatigue les gens, forcément. Ces taxes, elles ont été décidées par Colbert, imposées par l'État royal, sans aucun accord des États provinciaux. Là, on touche aux grands accords du début du XVIe siècle. On viole le contrat de la reine Anne, si l'on peut dire. C'est très mal perçu, évidemment, au Parlement, à Rennes, mais c'est encore plus mal perçu dans certaines campagnes. Et évidemment, plus on a tendance à s'éloigner dans la péninsule bretonne, et plus, bien entendu, la révolte gronde. Elle gronde tellement qu'elle éclate et elle va vraiment incendier la Bretagne pendant toute la belle saison 1675. Ça aussi, c'est une grande constante. Les révolutions ont généralement lieu l'été.
Merci d'avoir choisi Europe 1, vous écoutez au cœur de l'histoire. Et tout au long de l'émission, vous pouvez réagir si vous le souhaitez, nous envoyer vos messages, vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, la page Facebook de l'émission évidemment, et puis par mail europe1.fr. Vous restez avec nous sur Europe 1, on vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, et vous continuerez de nous parler de la révolte bretonne au XVIIe siècle.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire en terre bretonne cet après-midi, vous nous racontez, Franck Ferrand, la révolte des bonnets rouges dans la deuxième partie du XVIIe siècle.
Oui, les bonnets rouges, on a ressorti les bonnets rouges en Bretagne il y a 2 ans pour lutter contre l'écotaxe, vous savez, mais ça n'est pas un hasard si on a choisi cet emblème-là, même si à l'époque d'ailleurs il y avait autant de bonnets bleus que de bonnets rouges. Mais c'est un symbole de cette très grande révolte, un des symboles de cette très grande révolte de 1675 qui n'a pas duré longtemps. C'est un feu de paille, hein, ça dure le temps de l'été. Mais ça a profondément marqué les esprits. D'abord parce que ça touche, c'est une révolte très compliquée hein, qui touche toutes sortes de milieux et toutes sortes de personnes. Et puis surtout, la violence de la répression, bien entendu. C'est ce genre de choses qui marque au fer rouge une population. Cette violente émotion, comme on disait alors, nous dit Joël Cornette, est tout à fait complexe. Urbaine tout d'abord, rurale ensuite, antifiscale et ou antiseigneuriale enfin. Cette révolte exprime aussi par certains de ses aspects une opposition entre les villes et les campagnes. Ça, c'est un aspect extrêmement intéressant sur lequel nous avons beaucoup de questions à poser à Joël Cornette. Ça tombe bien, il est dans ce studio, donc il va pouvoir nous répondre dans un petit instant. Alors tout a commencé, vous l'aurez compris, dans les capitales, hein. Vous avez vu comme je suis prudent, à Rennes et à Nantes. Et puis au début d'avril 1675, les bureaux de distribution du tabac, de papier imprimé et de papier timbré sont pillés. On parle de 2000 personnes au début qui crient « Vive le roi sans gabelle et sans édit !» Pour la petite histoire, sachez qu'il n'y avait pas de gabelle justement en Bretagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sur le sel. Mais il y avait des rumeurs, on disait qu'on allait instaurer la gabelle. Entre parenthèses, il n'y a jamais de fumée sans feu, et quand on connaît l'administration fiscale en général, et celle de Colbert tout particulièrement, on peut se douter que la gabelle n'était à deux doigts d'advenir, probablement. Mais on ne savait même pas exactement ce que c'était en Bretagne à l'époque. La première répression est c'est de la répression évidemment, ferme mais relativement circonscrite. Les troubles s'étendent ensuite à Saint-Malo, le 19 avril, donc à Nantes. Elles vont revenir à Rennes. Madame de Sévigné nous raconte comment, d'ailleurs c'est la duchesse de Chaulnes qui a été agressée par ces gens, insultée, etc. Elle aurait reçu des pierres dans le jardin de son hôtel particulier de Rennes. C'est très symbolique, ça. Si on s'attaque, vous imaginez, à l'épouse du gouverneur, ça, c'est pas possible, bien entendu. Et puis, la révolte, alors, va éclater vraiment, juin, juillet, août. Ça, c'est la deuxième phase. Après l'insurrection à Rennes, à Nantes, des centaines de villages vont se révolter contre les taxes. Et, plus encore, dans certains cas, en tout cas, contre les seigneurs. Vous voyez que ça dégénère, comme on dit. Le mouvement était anti-étatique, il devient anti-seigneurial d'une certaine manière, pour ne pas dire anti-féodal, car il y avait en Bretagne les restes incontestables d'une certaine forme de féodalité. Alors c'est là que les régions de Pontivy, de Carhaix, de Pont-l'Abbé, etc. sont particulièrement touchées. C'est la partie qu'on appelle l'Armorique, hein, on est le plus à l'ouest là de la Bretagne. Le 9 juin, au son du tocsin, les paroissiens de Briec en Cornouailles s'arment et attaquent un manoir qu'ils vont piller. Ce sont des scènes qui font penser à 1793. Hein. En tout cas, certains historiens n'ont pas hésité à faire le parallèle entre la Révolution, enfin certains aspects de la Révolution française et ses révoltes. C'est là que les paysans, les fameux bonnets rouges dont vous parliez tout à l'heure, Omblines, vont attaquer les châteaux, les manoirs, etc. On continue quand même à attaquer les bureaux fiscaux, les bureaux de papier timbré, etc. Le 11, le 12 juillet, les bonnets rouges mettent le feu au château de Kergoët, qui appartient au marquis Toussaint de Trévigny, qui a été particulièrement dur avec ses paysans. Donc là, vous voyez à quel point c'est une révolte sur différents fronts, évidemment. Tout ça débouche sur la répression dont je vous ai parlé. Quand je dis répression, c'est terrible. Hein. Dites-vous qu'à Rennes, on estime qu'un cinquième de la population aurait pâti de cette effroyable répression. Le 23 octobre, quand tout s'éteint, quand il n'y a plus que des cendres et des fumées, Madame de Sévigné écrit toujours à sa fille « Vous pouvez compter qu'il n'y a plus de Bretagne, et c'est dommage, certes. » Alors comme toujours, parce que là encore c'est une grande constante dans ces histoires de rébellion, à peu près un an plus tard, enfin 6 mois en l'occurrence, le 5 février 1676, le roi, par lettre patente spéciale, va accorder totale rémission, comme on disait, une amnistie hein, tout simplement, à l'ensemble de la province. C'est toujours le même principe. On mate très sévèrement et ensuite on se montre clément un peu à la romaine. Enfin, quoique là, la clémence de Louis XIV a néanmoins été très modérée, très mesurée, au point que trois siècles et demi plus tard, ces révoltes et leur répression continuent d'occuper, d'habiter l'imaginaire des Bretons. Bonjour Joël Cornette.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous n'allons pas parler que de révolte et de rébellion avec vous, bien entendu. On va parler de cette histoire de la Bretagne en général, mais vous aurez bien compris que j'ai quelques questions à vous poser.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La Bretagne et la révolte bretonne du XVIIe siècle sont au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, vous recevez l'historien et professeur à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, Joël Cornette, auteur de Histoire illustrée de la Bretagne et des Bretons chez Seuil.
C'est une très bonne idée d'avoir illustré cette histoire universelle de la Bretagne, Joël Cornette. Ça donne de la chair, évidemment, à l'ouvrage.
Oui, de la chair dans la couleur et aussi un problème d'histoire, puisque comment représenter les Bretons? Et qui a représenté les Bretons? Est-ce que c'est les Bretons eux-mêmes qui se représentent ou on les représente? Et si on les représente, on les représente d'une certaine manière. Je pense par exemple à l'image de Bécassine, qui vient d'ailleurs, qui vient de Paris, mais qui donne justement des Bretons une image un peu, comment dire, péjorative. Un peu négatif.
Oui, la petite servante naïve, mais un peu bébête, quoi. Alors, justement, nous reviendrons, bien sûr, sur Bécassine tout à l'heure, j'y compte bien, et nous évoquerons ce personnage, et d'une façon générale, d'autres personnages emblématiques de la Bretagne. Avant cela, évidemment, il faut que nous concluions cette histoire de rébellion du XVIIe siècle, et notamment cet incendie populaire, si je puis dire, de l'été 1675. Révolte fiscale, mais pas seulement, nous dites-vous.
Oui, pas seulement, c'est aussi une révolte presque interne à la Bretagne, opposant seigneurs et paysans, et ça c'est très clair dans la partie carhaisienne, puisque vous avez évoqué Carhaix, et toute la partie finistérienne actuelle en tout cas, est marquée justement par une opposition assez importante des paysans contre les seigneurs. Et cette révolte, d'une certaine manière, c'est une des dernières révoltes, je dirais, archaïques, comme on a vu dans la première moitié du 7e siècle. C'est d'ailleurs la dernière grande révolte du siècle de Louis XIV. Si on tient compte de la toute dernière, on appelle les Taravisées en 1707. Mais voilà, 1675 marque vraiment la fin d'un grand cycle de révoltes qui concerne une grande partie des provinces de France. Et la Bretagne en fait partie, même si évidemment le caractère, je dirais, de vieux pays autonomes a joué évidemment un rôle tout à fait important et spécifique.
Alors quand l'enseignement populaire et laïque a été généralisé avec Victor Duruy, je parle même pas alors là de Jules Ferry et de la Troisième République, on a bien pris soin de ne pas évoquer ces révoltes. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, mais si vous regardez les manuels d'histoire jusqu'à une époque très récente, dans toutes les provinces il y a eu des révoltes très dures. Je pense aux nu-pieds de Normandie, enfin, etc., les croquants, etc. J'étais l'autre jour à Périgueux, on me racontait à quel point ces révoltes et leurs répressions ont marqué l'imaginaire collectif. Mais évidemment, ça n'existait pas dans l'histoire de France. On avait totalement gommé cet aspect. Dans le cas de la Bretagne, elles ne sont pas particulièrement violentes. Ce qui est particulièrement violent, c'est la répression qu'on leur oppose.
Oui, parce que la Bretagne, justement, a un statut, je dirais, un peu à part dans la géographie des provinces de France. Parce que la Bretagne a été un État, ce qu'on oublie souvent, un État vraiment indépendant. Et j'oserais presque faire une comparaison, ça aurait pu être un Portugal, ou une Suède, ou une Norvège. C'est-à-dire, regardez, du 14e...
Un petit morceau du territoire naturel qui est détaché politiquement, en fait.
Absolument. Hein. D'ailleurs, imaginez une carte qui ne se l'est qui ne serait plus centré sur, je dirais, la France centrale, mais qui serait, je dirais, centré sur l'Atlantique, eh bien là, tout change. La Bretagne devient presque un empire du milieu qui entretient des relations économiques, commerciales, avec toute l'Europe, du Portugal, pratiquement, jusqu'à la Russie. Et donc, on est là dans une autre, je dirais, dimension économique, sociale, politique, culturelle. La Bretagne a vraiment été un véritable État, avec son duc, avec son sacre, avec son église, avec ses particularités, avec sa langue, avec sa monnaie, une puissance donc en soi.
Et est-ce que la fin, j'allais dire un peu brutale, oui et non, puisqu'à côté de ça, il y avait déjà eu quelques tentatives au siècle précédent, mais est-ce que cette fin définitive de l'indépendance, de la souveraineté bretonne, n'explique pas en partie le genre de tension comme celle de 1675? C'est-à-dire que est-ce que ne s'y manifeste pas en partie, hein, sûrement pas exclusivement, mais en partie un rejet de la France, tout simplement, et de la tutelle de Versailles ou de Paris?
D'une certaine manière, oui, dans la mesure où, encore une fois, vous avez évoqué le contrat de la reine Anne, on n'a pas respecté un des articles essentiels qui unissait la Bretagne à la France, à savoir qu'il fallait que toute décision parisienne soit reconnue par les Bretons, acceptée par les Bretons. Or, Louis XIV, d'une certaine manière, a joué au roi absolu, et donc a considéré que la Bretagne était une province comme les autres, et que donc elle devait être taxée comme les autres. C'est la politique de Colbert. Et j'ajoute en plus que Colbert a ajouté des taxes importantes, barrant le commerce, et finalement, un des moteurs de la Bretagne s'est arrêté, justement, pendant le règne de Louis XIV.
Alors le paradoxe veut que la population bretonne soit relativement cultivée, émancipée d'une certaine manière, et que des restes de féodalité s'y soient manifestés beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. Et donc on peut là aussi peut-être expliquer cette espèce de révolution avant la lettre.
Le seigneur reste le personnage évidemment important et pratiquement jusqu'au 19e
avec
siècle.
Avec une population assez, assez raffinée, si je puis dire, et qui donc ne va pas forcément se laisser faire.
Oui, bien sûr. Il y a aussi une bourgeoisie, et une bourgeoisie presque rurale en Bretagne. Regardez d'ailleurs l'importance encore aujourd'hui des enclos paroissiaux qui sont la marque de cette, je dirais, une renaissance de plein vent qui manifeste justement la puissance économique des Bretons au 15e, 16e, 17e siècle. Le grand moment de cette construction des enclos, c'est justement le grand moment où le commerce est essentiel dans l'économie bretonne.
Et vous parliez d'une opposition des villes et des campagnes. Du coup, il y a un rapport là, immédiat, en fait. Hein.
Oui, la ville draine évidemment une partie des richesses et ça provoque évidemment des mécontentements. Et souvent, entre la ville et la campagne, il y a évidemment une tension très forte. Et elle se manifeste, vous en avez parlé, pendant la révolte des Torébènes. Et on va la poursuivre au moment de la Révolution, par exemple. Il y aura encore de grandes tensions entre ville et campagne, de même pendant la Ligue. Donc on a là, dans la longue durée, en quelque sorte, des moments de crise qui mettent bien en valeur ces oppositions internes à la société bretonne.
Je feuillette tout en vous écoutant, évidemment, je feuillette votre bel ouvrage. J'ai une magnifique illustration qui doit dater de l'après-guerre. Oui, c'est Xavier de Langlais sur l'exécution du marquis de Pontcallec. c'est un bois gravé très fort. Ça, c'est encore une autre tentative, encore une autre rébellion, un peu plus tard.
Hein, le marquis de Montcalec, c'est au moment de la régence. Vous savez, la régence, c'est toujours un moment faible, disons, de l'État central. Et c'est le moment où s'engouffrent justement les forces. Vous avez parlé de la Fronde, au moment de la minorité de Louis XIV. Eh bien, au moment de la minorité de Louis XV, le marquis de Montcalec exprime de nouveau, le désir d'indépendance de certains Bretons, pas de tous évidemment, puisque c'est une petite minorité, mais là de nobles. Hein, et le marquis de Pontcallec exprime bien ce désir d'un retour contrat de la reine Anne, contre l'État central, fiscal, qui oppresse, enfin retrouve ce même thème.
Le personnage a été immortalisé par Bertrand Tavernier, donc que la fête commence.
Voilà.
Il y a d'autres révoltes comme ça, et quelle va être l'attitude de la Bretagne pendant la Révolution, justement? Parce qu'on est à l'ouest, là, on est dans des terres
absolument.
De l'ouest.
Alors, c'est une attitude un peu particulière, puisque les Bretons, d'une certaine manière, sont les fers de lance de la Révolution. Je pense à la nuit du 4 août, qui renverse, si je peux dire, le régime féodal. Eh bien, la nuit du 4 août a été...
Ou qu'il l'enterre définitivement.
Ou qu'il l'enterre, oui. La nuit du 4 août a été préparée, c'est véritablement une assemblée politique travaillée par les Bretons, le club breton, puisque les Bretons, les députés des États généraux, étaient les plus, disons, on dirait à gauche, hein, en 1789. Et c'est eux qui sont d'ailleurs à l'origine du club des Jacobins, et ils se montrent vraiment les fers de lance d'une révolution particulièrement violente contre le régime féodal. Et ça, c'est un paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est que la Bretagne est aussi, je dirais, anti-révolutionnaire, puisque en 92-93,
elle est
contre-révolutionnaire.
Hein,
oui. Donc il y a les deux aspects. Donc c'est vrai qu'il est difficile de schématiser la société bretonne est traversée justement de ces extrêmes, soit l'extrême révolutionnaire en 89, soit l'extrême contre-révolutionnaire deux ou trois ans plus tard.
Comme elle est complexe et donc belle, cette histoire bretonne, évidemment, elle est toute en nuances, surtout quand c'est vous qui l'écrivez, évidemment, parce que vous n'entrez jamais dans la caricature, évidemment, Joël Cornette. Hein, vous êtes toujours dans cette espèce de compréhension nuancée de phénomènes qui parfois sont totalement antinomiques. Hein, c'est assez étrange, d'ailleurs.
Oui,
ce sont des paradoxes, en fait.
Il faut accepter ces contradictions. D'ailleurs, il n'y a pas une Bretagne, il y a des Bretons.
Voilà.
Et je pense que chez les Bretons, il y a un sentiment très très fort d'identité, presque, je dirais, locale.
D'où vient-il et à quand remonte-t-il ce sentiment identitaire breton? À partir de quand peut-on parler d'une Bretagne comme entité construite d'une certaine manière?
Ça remonte très tôt. J'oserais dire, ça remonte à l'origine même de la Bretagne. Après tout, les grands Bretons sont devenus des petits Bretons. C'est se situer entre le 5e et le 7e siècle. Et déjà là, par cette arrivée de population venue de Bretagne, de Grande-Bretagne, il y a là une sorte d'originalité culturelle, linguistique, religieuse, politique, et ça va rester tout au long de l'histoire et jusqu'au bonnet rouge de, je dirais, 2013-14 jusqu'à aujourd'hui.
Oui, donc des constantes là qui sont assez fortes. Au moment de l'ère viking, au moment où les Normands s'installent là, j'allais dire aux portes, parce qu'on connaît la vieille opposition entre Normandie et Bretagne, quelle est l'attitude des Normands et quel est leur système politique à l'époque?
Les Normands n'ont jamais, disons, ne sont pas vraiment bretonnisés, je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment des attaques normandes très importantes, mais ils ne sont jamais véritablement implantés. Donc ça a été un moment très rude, avec d'ailleurs on n'a pas énormément de sources, à part des sources monastiques, mais qui évidemment sont des sources terribles, qui racontent les destructions épouvantables provoquées par les Vikings. Mais je pense que ça a moins marqué que, évidemment, la Normandie. Donc c'est un épisode, certes, mais moins important qu'ailleurs.
L'âge d'or de la Bretagne, c'est ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge. Hein, c'est fin 13e, 14e et surtout 15e siècle. Là, on est à la grande époque du duché de Bretagne.
Voilà.
Puissance.
Absolument. Et c'est la grande période vraiment des ducs de Bretagne. C'est l'époque où je dirais le progrès économique est tout à fait important, où la Bretagne exporte notamment beaucoup de toiles, qu'on appelle un peu l'or blanc de la Bretagne. Songez que les voiles des galions espagnols qui vont en Amérique sont bretonnes. Et donc, on a là une industrie, si je peux dire, rurale, extrêmement forte, extrêmement positive. Et je parlais tout à l'heure des oncles paroissiaux, c'est la conséquence justement de cette richesse, cette espèce de renaissance de plein vent qu'on trouve encore aujourd'hui, et qui est presque l'équivalent de Versailles, mais voilà, à l'échelle des Bretons.
Alors on a vu un certain nombre d'assauts de rois de France successifs contre ce duché un peu trop prospère et un peu trop tapageur à leur porte. On pense bien entendu à ce qui s'est passé au moment de l'épisode de la forêt du Mans en 1392 avec la folie de Charles VI qui va interrompre une expédition punitive contre la Bretagne. Il y en a eu d'autres, jusqu'à la défaite de 1488, dont on a eu l'occasion de parler ici d'ailleurs.
Hein. Voilà, c'est 1488, c'est une vraie guerre, hein, mais une guerre de 1 contre 10. La Bretagne, petit pays, 2 millions d'habitants tout de même, mais face à un immense royaume, hein, puisque la Bretagne évidemment, face à la France, c'est un tout petit par rapport à un géant. Et donc, on est dans un rapport, encore une fois, de 1 à 10, 10 fois plus d'armées, 10 fois plus d'argent. Oui, oui. Et donc, évidemment, écrasement militaire, suivi du mariage forcé d'Anne de Bretagne avec le roi de France, Charles VIII. Premier mariage un peu malheureux, deuxième mariage un peu moins malheureux, puisqu'on
avec
dit
Louis
contre...
XII, oui.
Voilà, Louis XII. Et d'ailleurs, très intéressant, une des premières actions d'Anne de Bretagne remariée avec Louis XII, ça a été de revenir sur ses terres et de mettre en place une petite pièce d'or qu'on appelle la cadière d'Anne de Bretagne, la représentant en duchesse, avec les régalias, c'est-à-dire les instruments symboliques du pouvoir. Comme si, d'une certaine manière, la renaissance du duché était possible, ce qu'elle espérait, et ce qui ne fut pas, hélas.
Eh oui, alors ce duché ne va pas renaître, mais il va continuer à être prospère.
Voilà,
quasiment.
Jusqu'au Torébène.
C'est ça.
Jusqu'en
1675. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire, et je ne veux pas faire là de politique économique sauvage, mais est-ce que ça voudrait dire que la Bretagne est prospère jusqu'à ce que la fiscalité démente du royaume de France ne vienne l'étouffer?
On pourrait dire ça. C'est-à-dire que c'est un État lourd, l'État Louis XIVien, qui a besoin d'énormément d'argent pour ses guerres.
Eh oui, et quand l'État a besoin d'énormément d'argent, que voulez-vous, les provinces souffrent.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée.
Sur Europe 1, un extrait de La Blanche Hermine, une chanson de Gilles Servat, au cœur de la Bretagne, cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, l'historien et professeur à l'Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis, Joël Cornette, auteur de Histoire illustrée de la Bretagne et des Bretons chez Seuil.
Alors, il faut que nous évoquions les grandes figures de la Bretagne. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à l'école, enfin au collège, on lisait Le Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Azélias, hein, qui a été un livre important qui montrait l'entrée tellement difficile de ce qu'on a appelé le progrès, mais en tout cas, on va dire de l'industrie, dans une Bretagne qui n'y était pas préparée. Il y a quand même beaucoup de heurts dans cette histoire bretonne. Hein, beaucoup
Et Le Cheval d'Orgueil, c'est un livre vraiment fondateur d'une autre identité. D'une certaine manière, les Bretons étaient mal dans leur bretonnité pendant longtemps, justement, depuis Louis XIV et même bien avant.
Du reste, on étudie très peu l'histoire bretonne.
Ben oui, l'histoire est jacobine, elle est centralisée, si je puis dire, Louis XIVianisée. Et les Bretons.
Enfin, ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que bien souvent, elle est carrément oubliée.
Voilà, c'est une histoire donc vraiment vue du centre. Hein, et donc, je m'étonne toujours, par exemple, que l'histoire bretonne n'est pas enseignée, même en Bretagne, ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Et c'est un peu dommage, comme s'il y avait une sorte de contradiction.
Ah oui, c'est quand même l'identité.
Une identité importante. Et justement, la parution en 1975, je crois, du Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Azélias a marqué ce retour de l'identité. D'ailleurs, notez les deux prénoms, Pierre-Jacques, français-breton.
C'est-à-dire
que d'une certaine manière... Voilà,
il était lui-même dual.
Voilà, et les deux ne sont pas contradictoires.
Il y a eu, pendant la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, un phénomène très important qui a été non seulement l'englobement total de la Bretagne, bien entendu, dans la Nouvelle République, mais surtout un mouvement de migration extraordinaire. Les Bretons sont montés à Paris, comme on disait. Il y a encore la rue de l'Arrivée, dans le quartier de Montparnasse. Et là, c'était vraiment quasiment une sorte d'exode, en fait. Hein,
ben oui, c'est la Bretagne noire, si je puis dire. On a parlé beaucoup des Torébènes, et c'est vrai que cette révolte a marqué sur 2-3 siècles une sorte de mise à l'écart de la Bretagne, qui est passée à côté des grandes révolutions, notamment la révolution industrielle. Et j'oserais dire que de 1675 jusqu'en 1950, je me permets là d'embrasser
pendant 3 siècles,
plusieurs siècles,
dire,
voilà, pendant 3 siècles, la Bretagne est noire ou grise, à part quelques îlots de développement. Et le départ
qu'est-ce
de
que vous, qu'est-ce
de
que
Bretons,
vous voulez dire en disant noir ou grise?
C'est-à-dire un peu malheureuse, enfin, oui. Avec problèmes économiques, problèmes sociaux, et donc nécessité de partir. Beaucoup de Bretons et de Bretonnes notamment quittent la Bretagne pour aller offrir leurs bras
notamment
à Paris.
Une petite bécassine.
Et voilà, bécassine. Et bécassine est tout à fait symbolique justement de cette image de la Bretagne transplantée ailleurs. Et notez bécassine, j'ai apporté là un album,
oui,
et c'est frappant. On oublie souvent de dire
bécassine.
Que bécassine, elle n'a pas de bouche.
Et
je dirais que cette bécassine sans bouche, c'est le symbole.
On lui en a ajouté une avec le temps.
Mais plus tard. Là, elle n'a pas de bouche. Elle s'appelle Anaïck Le Borné, ou La Borné. Vous imaginez, La Borné. Même son nom porte en lui une sorte de tache, de macule terrible.
Il y a un regard assez tendre de son créateur qu'il faut nommer, d'ailleurs.
C'est vrai. Et un regard, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut toujours nuancer. Alors, Bécassine n'a pas de bouche, elle est naïve, elle est vraiment un peu plouque, mais elle évolue au fil des albums. Et c'est très intéressant, par exemple, les albums sur la Première Guerre mondiale sont extrêmement intéressants, parce que là, on a une Bécassine qui se rend compte des horreurs de la guerre et qui fait passer, justement, dans ses albums, cette image. Donc, voilà, il faut nuancer. Mais il n'empêche, l'image des Bretons est assez négative dans ces années.
On raconte toujours l'histoire des pauvres recrues bretonnes qui arrivaient pour la Grande Guerre de 14.
Absolument.
Et qui ne parlaient pas français, donc on leur disait paille-foin pour droite-gauche,
c'est des flouques. Ouais. Et ça arrive jusqu'au manuel. J'ai envie de vous lire, c'est très court, le manuel de géographie des lycées en 1929. On lit cette phrase que certains ont dû apprendre par cœur. Écoutez, c'est incroyable. Les principaux traits de la race bretonne sont la malpropreté, la superstition et l'ivronnerie. 1929, un manuel. Je pense qu'il en dit long, justement, sur le renversement d'image qui s'est opéré récemment, justement, dans les années 70. J'oserais presque dire que jusqu'en 1970, on est dans cette image un peu péjorative, négative. Pas de tous les Bretons, évidemment, mais en tout cas d'une partie des Bretons.
On peut dire que la confrontation de la vieille Bretagne de la duchesse Anne et de tous ses prédécesseurs avec la France jacobine s'est mal passée, et que cette culture extrêmement raffinée, il faut insister quand même sur les mythes, sur les cultes bretons, sur leur extraordinaire efflorescence artistique, bien entendu. C'est étonnant de voir que cette culture s'est fracassée en quelque sorte sur la culture dominante française, et le plus fin des deux n'était peut-être pas celui qu'on croit. C'est ça qui est terrible.
Et la guerre des canons, si je peux dire, puisqu'on a évoqué la répression terrible du duc de Chaulnes, du gouverneur, a été doublée par une guerre d'image. C'est-à-dire qu'on a donné des Bretons une image terrible. Je pense toujours à cette fable de La Fontaine, le Chartier embourbé. Regardez le titre. C'était dans un canton de Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. Dieu nous préserve du voyage.
Dieu nous préserve du voyage. Mon Dieu, ça ferait un très joli sous-titre à une évocation de la Bretagne par les Français.
Et regardez d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai mises dans le livre, les images de publicité des chemins de fer sur la Bretagne.
Tout à fait.
C'est, je dirais, l'image vraiment traditionnelle, mais des Bretons folklorisés. Enfin, une Bretagne, vraiment, on a l'impression d'aller, qu'on peut aller chez les sauvages très facilement à partir du train.
On voit aussi à la page 463 de votre ouvrage.
Ah, une autre bécassine.
Une bécassine qui, alors, elle a vraiment retrouvé la parole.
Absolument.
Si je puis
et
dire.
Puis, elle est sexuée, alors que la bécassine.
C'est pour
Pinchon,
une affiche, c'est pour le PSU Bretagne.
Voilà,
il faut le dire,
1981, et justement, ça participe de ce renversement d'image. L'affiche s'appelle Décidons chez nous, et c'est une bécassine vraiment gueulante, qui lève le poing, qui ouvre la bouche, et qui est vraiment féminine, qui assume sa féminité, et qui, montre des Bretons une toute autre image que celle qui a été la leur pendant des siècles.
Je réalise, Joël Cornette, et ça pourrait nous être reproché, que nous n'avons pas cité le nom de l'auteur de Bécassine, bien entendu.
C'est Pinchon.
Eh oui.
Texte de Comery, illustration de Pinchon, et cette Bécassine est apparue dans la semaine de Suzette, tout début du XXe siècle.
Comment est-ce que la Bretagne a vécu ? Alors, il y a eu dans les années 80 le retour à la langue bretonne, quand même.
Absolument.
Avec maintenant des départements universitaires, même.
Tout à fait. Le breton fait partie d'un cursus, je dirais, normal. Et après tout, c'est très bien. On peut passer un CAPES de breton. On peut passer le bac en breton. Il y a les écoles d'Iwan. Alors, ça concerne une minorité, mais je pense que cette minorité est extrêmement active et fait de la langue un fer de lance. Après tout, c'est un rapport à l'identité. Et cette langue qui a été longtemps méprisée, considérée comme, je dirais presque comme un dialecte, est maintenant absolument valorisée.
Il y a des créations. Alors attention, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, entre parenthèses, à chaque fois que j'emploie le terme folklore, on a des messages qui arrivent au standard. Attention, parler de tradition, parler de culture, etc. Bon, je vois pas ce qu'il y a de mal à parler d'un folklore au meilleur sens du terme, hein, bien entendu. Il n'y a aucune forme d'acception péjorative chez moi, en tout cas. C'est très intéressant de voir que ce folklore se répand et se développe depuis une vingtaine d'années, depuis un quart de siècle, disons.
Oui, et puis, encore une fois, c'est les années, je dirais, si je puis dire, les années 68 qui ont été extrêmement importantes, hein, avec les chanteurs. Vous avez passé d'ailleurs des chants bretons, mais qui sont très valorisés. Songez que les sœurs Guadec sont allées à l'Olympia. C'est extraordinaire. Donc, la Bretagne qui arrive à Paris, c'est presque l'inverse. Tout à l'heure, on a vu les troupes de Louis XIV absolument détruire les Bretons. Maintenant, les Bretons sont très fiers de défiler à Paris ou de passer à l'Olympia.
Un festival comme celui des Vieilles Charrues, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui se trouve à Carré-Plouguer, ça va avoir lieu cette année du 16 au 19 juillet et Europe 1 sera partenaire, figurez-vous.
C'est parfait. Et d'ailleurs, le maire de Carré, Christian Troidec, c'est un des fers de lance des Bonnets Rouges de 2013.
Et oui, d'ailleurs.
Et là, on retrouve...
Comme par hasard, on a envie de dire.
Voilà, donc on est là dans la longue durée.
Ce festival des Vieilles Charrues, il a maintenant des racines très populaires. Hein. Ce n'est pas seulement un petit mouvement comme ça.
C'est absolument énorme.
Hein. C'est énorme,
Voilà, et c'est le cœur de la Bretagne. En plus, cœur dans tous les sens du terme. J'oserais presque dire que le cœur palpitant et cœur géographique.
Ça n'est pas le seul. Hein. Il y a également le festival interceltique de Lorient, etc. Est-ce que la Bretagne retrouve des liens avec les îles britanniques d'une certaine manière et avec le monde gaélique?
Oui. Tout à l'heure, je parlais d'arc atlantique, et c'est vrai, encore une fois, si on regarde la carte, non pas depuis le centre, mais à partir de la périphérie, la Bretagne devient de nouveau un empire du milieu, et peut très bien avoir des relations économiques, culturelles, vous en avez parlé, commerciales, maritimes, avec ce grand Atlantique dont elle est un élément évidemment essentiel. Et ça, c'est pour l'avenir.
La très belle histoire illustrée de la Bretagne et des Bretons de Joël Cornette est éditée au Seuil. Et alors, puisque nous parlons d'édition, chez un autre éditeur très prestigieux, en NRF chez Gallimard, vous allez publier dans la très prestigieuse également collection des journées qui ont fait l'histoire, une mort de Louis XIV.
Oui, je suis un peu schizophrène là. C'est-à-dire, d'un côté, je suis breton et donc contre Louis XIV.
Je ne savais pas comment vous dire ça, mais puisque vous le dites vous-même.
Et en même temps, mais j'assume la schizophrénie. Je suis un fils de la République, donc j'enseigne l'histoire de France, mais aussi l'histoire de Bretagne. Les deux sont pas contradictoires.
Non. Et on peut quand même s'intéresser à Louis XIV, persécuteur de la Bretagne, tout en étant un amoureux des Bretons. Alors cette mort de Louis XIV, on aura l'occasion d'y revenir, bien entendu. Vous l'avez sous-titré Apogée et crépuscule de la royauté, c'est un moment, les journées qui ont fait la France, alors là, oui, ô combien, on est dans une période charnière, dans un moment de basculement, 1715.
Là aussi, c'est un basculement, et un basculement presque là de représentation, c'est-à-dire le roi était l'État, il n'a jamais dit l'État c'est moi, mais en mourant, il a dit je m'en vais, l'État demeurera toujours, ce qui est extraordinaire. Donc, entre la disparition de ce corps mortel et le maintien de ce corps immortel de la souveraineté, voilà le problème. Je pense que ni Louis XV ni Louis XVI n'ont pu assumer cet habit peut-être trop grand pour eux qui était l'État.
Là, le personnage était d'une dimension très singulière.
Ouais, c'est ce que j'ai essayé d'écrire et de montrer.
On apprend beaucoup finalement des ultima verba, des dernières paroles prononcées par les personnes sur leur lit de mort. Alors là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait les dernières paroles de Louis XIV, mais c'est son testament politique devant de nombreux témoins. Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Il sera bien temps, le 1er septembre prochain, de réévoquer tout cela. Merci beaucoup Joël Cornette. Et je rappelle le titre de votre ouvrage consacré non pas à Louis XIV mais aux Bretons. C'est l'histoire illustrée de la Bretagne et des Bretons.
Vous restez avec nous au cœur de l'histoire. Continue dans un instant sur Europe 1. Nous sommes en Bretagne cet après-midi et nous y resterons car Franck Ferrand vous répondrait à la question de Guy sur l'origine des coiffes bretonnes.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Guy qui, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, vous demande quelle est l'origine des coiffes bretonnes.
Ah oui, on pourrait presque dire des coiffures hein, bretonnes, puisque on parle toujours des chapeaux ronds, bien entendu. Vous savez que les chapeaux, c'était la tribu des nobles. Le bonnet à ruban, celui des bourgeois. La coiffe blanche, celle des artisans. Et puis la coiffe telle qu'on la connaît, très souvent, c'était une coiffe paysanne, bien entendu. Et c'est un accessoire très fort de l'identité culturelle et géographique de la Bretagne. Il y a un nombre incroyable de modèles de coiffes bretonnes. Elles ont toutes pour point commun, et ça c'est ce qui fait la coiffe bretonne. On pourrait parler de la crêpe bretonne aussi, mais ce sera pour une autre fois si vous voulez bien. C'est cette dentelle blanche, bien entendu. Alors, l'image que l'on a toujours à l'esprit, c'est bien sûr la bigoudaine, cette très haute coiffe qui mesure 30, parfois 40 centimètres, hein, qui provient du pays bigoudin, bien entendu, donc le sud-ouest du Finistère. Et ça nous ramène directement à notre émission d'aujourd'hui, puisque figurez-vous que cette coiffe bigoudaine, elle a été imposée à la fin du XVIIe siècle comme une réaction aux répressions de Louis XIV en 1675. Vous voyez qu'on n'en sort pas. Ça a été quand même un moment extraordinaire que celle de cette révolte dite du papier timbré. Hein. À l'époque, il a été décidé, encore une fois, pour stigmatiser la Bretagne qui s'était mal comportée, qu'un certain nombre de clochers seraient abattus. On rasait les clochers. C'était une vieille méthode de Richelieu, ça. Bon. Et en l'occurrence, c'est pour protester contre cet arasement d'un certain nombre de clochers que les bigoudins ont créé ces espèces de grandes coiffes qui symbolisaient, en quelque sorte, la résistance bretonne à la répression du pouvoir central de la France. Et alors bon, la bigoudaine, la coiffe, elle a disparu au bout d'un moment, enfin on la portait quasiment plus. Et puis il y a eu ce moment, vous savez, de nostalgie, de retour. On n'en a pas parlé tout à l'heure avec Joël Cornette, mais c'est un mouvement très très passionnant que celui du moment de la Troisième République, quand renaît une identité bretonne et la volonté justement de rester fier de ce qu'on est, n'est-ce pas? Et bien comme par hasard, on voit à ce moment-là réapparaître cette coiffe bigoudaine, sauf que à l'époque il y a l'école de Pont-Aven, il y a les biscuiteries et les biscuits qui se répandent dans la France entière, etc. Bref, la Bretagne devient un élément fort du comment est-ce qu'on pourrait dire du, alors vous voyez comme j'ai du mal avec ce mot, folklore, on va dire de ce qu'il y a de pittoresque en France, et la coiffe bigoudaine va devenir une sorte de clin d'œil très sympathique d'ailleurs pour évoquer la Bretagne en général. Elle est toujours portée aujourd'hui, mais de façon folklorique.